Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
C'est une date qui restera à jamais dans l'histoire de la Guinée. Le 28 septembre 2009, des milliers de militants de l'opposition s'étaient rassemblés pacifiquement dans un stade de Conakry pour protester contre la candidature à l'élection présidentielle de Moussa Dadis Camara, qui à l'époque était à la tête de la junte militaire. Mais la manifestation s'est transformée en massacre. Les militaires, les soldats de la junte ont ouvert le feu, tuant au moins 157 personnes et blessant 1400 autres, plus d'une centaines de femmes ont été violées sur place. 10 ans après ces crimes, certes, l'instruction est terminée, la justice a inculpé une quinzaine de personnes. À plusieurs reprises, le gouvernement s'est engagé à organiser un procès. Seulement voilà, nous sommes fin 2019 et les victimes attendent toujours que justice soit rendue. 10 ans après ces événements tragiques, comment les Guinéens vivent-ils cette page sombre de l'histoire de leur pays? RFI vous donne la parole durant près d'une heure. Vos réactions, vos témoignages et vos questions. Et pour dialoguer avec vous, pour m'accompagner tout au long de cette émission spéciale, à mes côtés, Antonin Rabec, bonjour.
Bonjour.
Responsable adjoint du Bureau Afrique de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme. L'AFIDH qui, rappelons-le, est allé sur le terrain après ces massacres pour enquêter. L'AFIDH qui, avec d'autres ONG, accompagne les victimes et s'est portée partie civile. À Conakry, Carole Valade, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Correspondant de RFI, je précise que durant l'émission, dans le courant de l'émission, nous contacterons Asmaou Diallo, la présidente de l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre. Carole Valade, 10e anniversaire certes, mais disons-le, sans commémoration particulière.
Non, c'est un samedi somme toute assez banal, hein, tournoi de foot, spectacle musical sur les lieux du drame. En fait, les activités sportives et culturelles ont suivi leur cours, un peu comme si de rien n'était. Ce qui d'ailleurs ne choque pas particulièrement en Guinée, hein, puisqu'il n'y a jamais eu de commémoration officielle. L'association des victimes, elle s'est contentée d'une conférence de presse, mais rien d'autre, faute de financement, selon sa présidente, parce qu'en effet, c'est l'Union européenne via la FIDH qui finançait les commémorations. Puisque là, seul fait marquant, cette allocution du Premier ministre diffusée à la télévision nationale, il a exprimé au nom du président de la République, je cite, « toute la compassion et les condoléances de la nation ». Il a promis que tous les présumés auteurs, en précisant quelle que soit leur appartenance politique, leur titre ou leur grade, répondront devant la justice et que toutes les victimes seront indemnisées.
Oui, le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana qui s'est voulu rassurant quant à la tenue du procès. Antonin Rabec, le défenseur des droits humains que vous êtes, que ressent-il ce matin, 10 ans après ?
Effectivement, déjà beaucoup de compassion, je dirais, pour les victimes qui attendent toujours un procès. Peut-être pour rebondir sur la question des commémorations, c'est un vrai problème ou c'est un vrai tabou en Guinée que cette question des commémorations. Pour le massacre du 28 septembre 2009, comme pour d'autres cas, je pense notamment par exemple au massacre de janvier-février 2007 ou au crime commis au Camboaro, il n'y a pas en Guinée de plaque de commémoration, il n'y a pas de monument et malheureusement il y a une parole publique et politique assez peu courante. Le seul, je dirais, représentant du gouvernement qui s'est longtemps exprimé sur ces questions, c'est l'ancien ministre de l'Unité nationale, Gassama Diaby, qui a démissionné au mois de novembre dernier.
Ouais. Et démission également du ministre de la Justice, Cheikh Sakho, qui a contribué à ce que ce dossier puisse avancer. On aura évidemment l'occasion d'y revenir. Je vous propose, Antonin Rabec et Carole Valade, de commencer cette émission avec des témoignages. Nous en avons reçu plusieurs dizaines d'auditeurs qui étaient présents dans ce stade le 28 septembre 2009. C'est le cas d'Aliou. Bonjour Aliou.
Oui, bonjour.
Merci de nous avoir appelés, merci de vouloir témoigner sur l'antenne de RFI. Comment avez-vous vécu ce 28 septembre 2009 ?
Oui, bon, je me rappelle que c'était aujourd'hui, c'était également un lundi. Donc, on a décidé de se rendre dans ce stade pour manifester.
Oui. Alors Aliou, vous savez quoi, je pense que nous avons des problèmes de réseau téléphone entre Paris et Conakry, c'était le cas il y a quelques instants avec Carole Valade, notre correspondant. On va essayer de vous retrouver évidemment dans quelques minutes, on règle tout ça hors antenne avec nos techniciens qui font au mieux évidemment comme tous les matins. Thierno, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous.
Vous êtes à Conakry également dans la capitale guinéenne, vous étiez dans ce stade le 28 septembre 2009, vous aviez 16 ans.
Absolument. J'avais 16 ans ce jour du 28 septembre 2009. Comme très tôt le matin, mes amis et moi, nous avons vu la foule passer. Nous avons décidé de venir juste au bord de la route et voir l'Angoma. Voilà donc comment nous avons continué le chemin avec eux. Une fois au stade, c'était la demande d'un désordre total. Quand très tôt le matin, le ministre Kegourou, en ce temps ministre d'État, il est venu avec sa garde rapprochée. Il a demandé à ce que tout le monde quitte. Mais fort malheureusement, il y avait une foule immense qui a forcé la rentrée au stade. Et vous savez ce que c'est la suite.
Oui. Vous avez compris, Thierno, rapidement, que les militaires tiraient et tiraient à balles réelles et non des balles en caoutchouc. Est-ce que vous l'avez compris rapidement, cela?
Malheureusement, pas non. Ceux qui étaient derrière le stade, c'est-à-dire derrière la cour, sont ceux qui ont été fusés en première position. Avant que nous étions à l'intérieur du stade, nous le sachions. C'était déjà trop tard. Ils avaient, parce que, disons-le, ceux qui étaient à l'extérieur, ce sont eux qui ont été tués en massif et ceux qui étaient sur la pelouse.
Ouais. Alors, Thierno, je le disais, on a reçu beaucoup de témoignages d'auditeurs qui étaient présents ce 28 septembre 2009 dans ce stade à Conakry. C'est le cas d'Ibrahima Ousmane. Bonjour Ibrahima Ousmane.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Vous étiez et vous faites partie de ces victimes du massacre du 28 septembre. Vous avez été vous-même poignardé?
Bien sûr, j'étais poignardé au dos. Je me suis rendu compte, c'est quand j'étais rentré à la maison, sous la peur et l'émotion, je ne me suis pas rendu compte sur le coup. J'étais dans le stade quand ils sont arrivés derrière le stade et du coup, ils ont tiré. Nous, on a dit c'est des tirs de sommation. Mais entre-temps, quand ils ont pu pénétrer à l'intérieur de la pelouse, je me suis tiré par la petite porte au niveau du Sahara, de la partie du stade qui fait face à la tribune. Et je suis allé à l'extérieur, mais le mur qui sépare le stade et l'autoroute. On a essayé de grimper. J'étais très petit, j'avais 18 ans. Et du coup, les militaires sont venus fusiller tout ce qui était sacrifié au mur pour pouvoir tomber de l'autre côté. Et entre-temps, je me suis dirigé vers l'université Gamal Abdel Nasser qui est tangent à l'université. Il y a une cour mitoyenne entre l'université et le stade. Et là-bas aussi, moi, d'après les conventions internationales, on ne peut pas rentrer dans les universités, les églises et les mosquées, quel que soit, même si le pays est en état de guerre. Mais bon, je me suis rendu compte qu'ils étaient à l'université. Et du coup, j'essayais de me frayer un chemin au niveau du stade annexe qui est le côté opposé du stade principal, qui était en chantier. Il y avait des fossés de 2 mètres qui étaient en chantier. Et du coup, 2 personnes qui étaient à côté de moi, à gauche et à droite, ils ont perdu la vie, ils ont reçu des balles. Je me suis dit, le prochain, c'est moi. Et du coup, j'ai continué à courir. Mais entre-temps, il y avait des personnes qui étaient tombées déjà. J'ai vu de mes propres yeux des femmes qui étaient en train d'être violées. Et du coup, à ma sortie, parce qu'on s'est bousculé pour sortir, au niveau de l'esplanade du stade, il y avait des bérets rouges qui étaient déjà arrêtés, stationnés là-bas, avec des kalachnikovs, des balles, des ceintures par balles, et leurs ceintures de balles. Et du coup, le militaire il nous a demandé de s'arrêter. Et heureusement, on s'est arrêté. Il y a un vieux qui est sorti de nulle part. Je ne me suis pas rendu compte qui est sorti de nulle part. Tu l'as supplié de ne pas tirer sur nous. S'il veut tuer quelqu'un, de nous tuer directement. Parce que nous sommes des jeunes, nous sommes des enfants. Nous sommes l'avenir du pays. Lui, il a à peu près 60-70 ans. De nous tuer, lui. Et entre-temps, le militaire, il a pris conscience du danger qui faisait courir à nous et aux autres. Il nous a dit de continuer. Mais entre-temps, durant tout le trajet, en fait, il tirait par-ci, par-là, il y avait des cordons de sécurité conduits. Les gendarmes étaient conduits par le colonel Tcheboro, l'actuel ministre d'État des services spéciaux à la présidence.
On aura l'occasion de revenir sur les différentes personnalités inculpées dans ce massacre. Merci en tout cas, Ibrahima Ousmane, d'avoir témoigné. Antonin Rabec, on le constate, et je le vois sur les réseaux sociaux de l'émission, au Standard, et là, à l'antenne, ce besoin, 10 ans après, d'en parler. Et de rentrer dans le détail, d'expliquer ce qui s'est passé minute par minute.
Oui, absolument. Et je pense que le massacre du 28 septembre est d'autant plus marquant qu'il a été commis en plein jour, en plein milieu, en plein cœur de la capitale guinéenne, et que ça a été une stupéfaction pour l'ensemble de la communauté nationale et internationale, puisque c'était vraiment l'ensemble des partis politiques, des militants de la société civile réunis au sein des forces vives de la nation qui s'étaient réunis dans ce stade. C'était très pacifique, il y avait des prières, et finalement les gens qui se retrouvaient dans l'enceinte, hein, comme on l'a entendu dans le témoignage, dans l'enceinte même du stade, n'ont pas compris tout de suite que dans les coursives du stade, le massacre commençait, et se sont retrouvés à courir partout. Beaucoup ont été bousculés, écrasés, et donc oui, je dirais que la stupéfaction est encore terrible, et sans parler, je dirais, des viols qui ont été commis également en plein jour.
On parle d'une centaine de femmes violées. Absolument, sur 100, place.
107 selon les enquêtes les plus précises, vraiment au cœur même du stade, dans les toilettes du stade, et c'est quelque chose qui était inenvisageable en Guinée en 2009, même si la Guinée a une tradition, je dirais, de violence politique, puisque les répressions policières ont toujours été fortes et violentes.
Ouais. On va passer au standard, des témoignages, mais aussi beaucoup de questions au 33 9 693 693 70. Alpha est avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bienvenue, nous vous écoutons, quelles sont vos questions, Alpha?
Après 10 ans de disparition, je reste perplexe de ne pas avoir le corps de mon grand frère qui est mort lors des affaires massacres de l'armée par les manifestants de l'opposition au stade du 28 septembre.
C'est-à-dire que vous n'avez plus... Attendez, que je comprenne bien, Alpha, votre situation. Vous n'avez plus de nouvelles depuis 10 ans de votre frère. Il est allé manifester dans ce stade.
Oui, monsieur.
Et depuis, plus de nouvelles.
Plus de nouvelles, monsieur.
D'accord.
J'ai une question à vous poser.
Oui.
Et lors du massacre, au moins 150 personnes furent tuées et une partie à ce jour reste introuvable. Et qu'est-ce qui a été fait pour retrouver ces cadavres?
Je rappelle les chiffres, Antonin Rabec. Selon l'ONU, au moins 156 personnes ont été tuées, 1400 blessées, 109 femmes violées. Les familles n'ont pu récupérer que 67 corps. Autrement dit, Carole Valade, vous qui êtes sur place, correspondant de RFI à Conakry, autrement dit, plus d'une centaine de corps ont disparu. Qu'est-ce qui a été fait depuis 10 ans pour les retrouver?
D'abord, merci Alpha pour cette question. Malheureusement, à ce jour, aucune enquête officielle n'a été menée. Pourtant, des informations précises existent, hein, sur une demi-douzaine de sites d'enfouissement potentiels. Moi-même, en suivant la piste d'un rapport de Human Rights Watch qui n'a jamais été publié, je me suis rendu sur certains d'entre eux à Conakry. Là, les habitants du quartier m'ont guidé. Ils m'ont raconté comment les militaires avaient bouclé le quartier, le va-et-vient des pick-up, le travail nocturne et même les odeurs de putréfaction. L'actuel ministre de la Justice dit ne pas avoir connaissance de ces informations. Pourtant, elles ont bel et bien été transmises au juge par Human Rights Watch, qui affirme même qu'une équipe onusienne de médecins légistes était prête à venir. En tout cas, les témoins, eux, ils sont encore là et ils craignent des représailles, ils ont peur, tandis que les familles, elles, ne peuvent toujours pas achever leur deuil.
Antonin Rabec, les familles qui n'ont toujours pas pu récupérer les corps de leurs proches, ces familles-là, il leur est impossible finalement de faire le deuil.
Absolument.
Alors, sans corps, pas de deuil.
Absolument, et c'est ça rajoute, si vous voulez, au scandale de ce massacre. Alors peut-être pour préciser, les juges d'instruction qui ont été nommés à la suite du massacre du 20 septembre par la justice guinéenne ont émis des commissions rogatoires, donc pour demander à certains chefs de quartier, à certains commissaires de police, d'aller enquêter sur des lieux présumés d'inhumation des personnes disparues. Malheureusement, ces demandes sont restées lettres mortes, et donc la justice guinéenne a bouclé le dossier d'instruction sans avancer plus que ça sur cette question. Néanmoins, c'est une question qui peut toujours être traitée lors du procès. Hein, il peut y avoir des actes complémentaires d'enquête qui peuvent être réalisés à ce moment-là, et donc nous espérons qu'au cours du procès, la vérité pourra être faite sur la question des disparitions, et que les familles de disparus pourront enterrer dignement leurs proches.
Question qui nous est posée par Maki. Cela fait 10 ans que le massacre a eu lieu. Quelles ont été les actions concrètes menées par la justice guinéenne pour faire la lumière sur cette affaire? Est-ce qu'on peut résumer en quelques mots, en quelques phrases, Carole Valade, tout ce qui a été fait ces 10 dernières années?
Alors, 10 ans, bien sûr, c'est trop long pour les victimes, mais il y a quand même eu des avancées. Alors, pour rappel, l'instruction, elle démarre en février 2010, elle dure 7 ans, certes, mais elle permet quand même d'inculper 13 personnes, dont plusieurs aux responsables du CNDD. Ensuite, il y a eu un pourvoi pour changer la qualification des faits, 3 ans de procédure, mais entre-temps, il y a quand même eu un comité de pilotage qui a été mis en place en 2018 à l'initiative de Maître Cheikh Sacko, l'ex-ministre de la Justice. Alors, au départ, il devait se réunir toutes les semaines, finalement, il ne l'a fait que 6 fois jusqu'ici, ce qui a tout de même permis de fixer un budget prévisionnel à hauteur de 78 milliards de francs guinéens, c'est à peu près 8 millions d'euros. Un budget donc et un lieu pour le procès, finalement ce sera la cour d'appel de Conakry. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons invoquées par l'actuel ministre de la Justice. Il faut construire un nouveau bâtiment abritant de nouvelles salles d'audience, ce qui devrait prendre 3 mois selon lui. Et pendant ce temps, les différents personnels d'ailleurs suivent des formations diverses. Bref, ce ne sera pas avant 2020. Maintenant, est-ce qu'on pourra tenir un procès véritablement en 2020 compte tenu des échéances électorales qui sont ici déjà source de tension, c'est la question que tout le monde se pose à Conakry.
Et c'est la question que vous posez, j'imagine, également Antonin Rabec. Des élections législatives sont annoncées très prochainement. Il y a l'élection présidentielle qui doit se tenir dans un an, en octobre 2020. Est-ce que le calendrier électoral risque d'avoir des répercussions, des conséquences sur ce procès ?
Alors oui, évidemment, je pense que en Guinée, toutes les dernières échéances électorales ont occasionné des délais importants, enfin des retards importants dans la procédure. Ça a été vrai en 2015, ça a été vrai pour les dernières législatives. Néanmoins, je pense qu'il est plus temps de, il n'y a plus de prétexte à avoir pour cela. Il n'y aura pas d'agenda parfait, il n'y aura pas d'occasion parfaite de sérénité qui permettrait un procès idéal. Il faut avancer pour ce procès. Aujourd'hui, je crois que d'un point de vue judiciaire, plus rien ne retarde le procès, hein, il n'y a plus de recours possible. Il faut maintenant vraiment régler les derniers détails techniques et ces détails ne devraient pas, encore une fois, être des freins. La question du bâtiment, par exemple, oui. La grande salle d'audience de la cour d'appel de Conakry est probablement suffisamment grande pour permettre la tenue d'un tel procès. Je rappelle que le dernier grand procès qui s'y est tenu, qui avait été largement suivi par la communauté nationale et internationale, c'était le procès de l'attaque de la résidence du chef de l'État. En 2012 ou 2013, qui avait été très très largement suivi, et la salle d'audience avait tout à fait permis des débats en son sein. Donc je pense qu'aujourd'hui l'urgence est d'aller à ce procès et d'évacuer les dernières questions logistiques au plus vite.
En tout cas sur notre antenne, le ministre de la Justice Mamadou Lamine Fofana disait espérer lancer le procès en milieu d'année prochaine. Vous parliez, Carole Valade, du budget prévisionnel 70 milliards de francs guinéens pour organiser ce procès, ce qui suscite évidemment de nombreuses questions. Bonjour, c'est Kouba.
Ouais, bonjour RFI, je salue tous les auditeurs.
Merci de votre fidélité. Nous vous écoutons, c'est Kouba.
Selon le comité de pilotage du prochain, il manque encore 58 milliards de francs guinéens pour financer ce prochain. Mon première question est que comment l'État guinéen compte-t-il trouver la somme manquante? Mon deuxième question, peut-il compter sur des soutiens internationaux?
Ah, Carole Valade, que peut-on répondre à Sekouba s'agissant justement du financement?
Bah, tout à fait, Sekouba a raison. Sur les 78 milliards, il y a 60 milliards qui devaient au départ sortir des caisses de l'État. Et les États-Unis et l'Union européenne, eux, ont promis de contribuer respectivement à hauteur de 17 et 5,8%. Mais le Premier ministre, en fait, aurait demandé que la part de l'État soit revue à la baisse. Et finalement, seuls 20 milliards ont été validés par l'Assemblée nationale jusqu'à aujourd'hui. Le porte-parole du ministère de la Justice, Sekou Keïta, m'assurait qu'il ne s'agissait que d'une première tranche, en quelque sorte, et que le reste sera débloqué lors de la prochaine session. Alors, il insiste également sur le fait que seuls les fonds des États-Unis sont arrivés en Guinée. Pour l'instant, ceux des autres acteurs restent au stade de la promesse, on va dire. Mais d'ores et déjà, le ministre Lamine Fofana laisse entendre que plusieurs dépenses n'auraient pas été prises en compte et que le budget final dépassera probablement les 100 milliards.
100 milliards. Donc, il va falloir trouver cette somme quelque part, Antonin.
Absolument. Et la question du budget est toujours importante. Je pense notamment au procès d'Issène Abré qui s'est tenu au Sénégal. Longtemps, la question du budget a été un point d'achoppement avec les bailleurs de fonds.
Et sans l'aide de la communauté internationale, le procès Issène Abré n'aurait jamais eu lieu.
Absolument. Mais je pense, pour en avoir longuement parlé avec un certain nombre de bailleurs de fonds, notamment l'Union européenne, les États-Unis et la France, mais pas seulement, qu'il y a une vraie volonté d'aller à ce procès, de soutenir ce procès, la volonté politique au plus haut niveau de l'État est manifeste par le président Alpha Condé.
On continue d'en parler dans 10 minutes, juste après le journal, avec vous, Antonin Rabec de la FIDH, Carole Valade, correspondant RFI en Guinée, et Asmaou, Diallo qui nous rejoindra. Elle est la présidente de l'association des victimes.